France Inter. Philippe Bertrand.
Carnet de campagne, bonjour. Les carnets en majeure partie cette semaine dans le Finistère pour respecter le parcours du jeu des 1000 euros. Et tout à l'heure, je vous présenterai une alternative au déplacement doux à bicyclette. Mais qui peine à émerger en France, enfin plus précisément il s'agit du vélo mobile, un vélo couché en version tricycle, voire quadricycle et caréné. Il existe une fédération nationale présidée par Denis Baudenet qui sera notre invité. Mais tout d'abord nous allons dans un étrange lieu, le Low-Tech Lab à Concarneau.
Carnet de campagne, le journal des solutions.
Pierre-Alain Lévesque, bonjour.
Bonjour.
On vous rejoint à Concarneau pour le Low-Tech Lab. Alors, il faut traduire par basse technologie, laboratoire de basse technologie. Ça implique une définition.
Oui, exactement, la définition des low-tech. Nous, on s'intéresse à ces systèmes qu'on définit comme des systèmes techniques simples, accessibles et durables, qui permettent de répondre aux besoins de base, sur l'accès à l'eau potable, par exemple, l'énergie, l'alimentation, etc.
Oui.
Et en fait, il y a énormément de systèmes de ce type qui existent à travers le monde entier, que ce soit en pays émergents ou même en pays occidentaux. Et le problème, c'est qu'ils sont souvent très peu connus et très peu diffusés. Donc nous, on s'intéresse à voir comment est-ce que ces systèmes peuvent être appliqués à plein de bénéficiaires, en fait.
Alors les bénéficiaires, ça peut être des entreprises comme des particuliers ?
Le but final, c'est quand même le citoyen, l'individu. Mais c'est vrai que ça peut passer par des vecteurs de diffusion qui sont des associations, des ONG, des entreprises, pour aussi créer des économies locales, en plus que de répondre aux besoins finaux des individus.
Il y a beaucoup de besoins aujourd'hui. On va prendre un exemple sur la mobilité. Essayer de trouver le moyen le plus accessible pour tous, donc le moins onéreux, le moins polluant, qui permet d'avoir une mobilité douce et respectueuse de l'environnement.
Ouais, c'est un vrai sujet, la mobilité, surtout dans des pays qui sont en pleine expansion, comme l'Inde notamment. Donc on travaille d'une part à voir comment est-ce que sur des véhicules existants, on peut réduire l'impact écologique par l'utilisation par exemple de biomatériaux, notamment la fibre de jute qui pousse beaucoup dans le golfe du Bengale.
Oui.
Et ça permet d'ouvrir la réflexion sur qu'est-ce qui peut être mis en place pour que ce soit le plus pertinent possible pour l'impact écologique et pour l'usage de la personne.
Et par exemple, ça, alors ça vous concerne directement, puisqu'au lab, vous travaillez à fabrication de ce véhicule prototype à base de fibres de jute.
Exactement, ouais. C'est donc Quentin qui est le porteur de ce projet-là, qui s'appelle l'expédition Agami. Donc il travaille avec un petit constructeur malgache pour fabriquer ce prototype de voiture. Donc, toute la carrosserie va être l'occasion de tester en fait ce qu'on appelle des thermoplastiques, des plastiques recyclés mixés avec de la fibre de jute. Au cours d'une expédition qui va remonter l'Afrique, éprouver le différents types de matériaux. Et à l'occasion aussi, rencontrer plein d'acteurs de low-tech sur la route.
Comment passe-t-on du prototype à la grande diffusion ?
Alors, le truc le plus important déjà, c'est d'étudier les besoins sur le terrain. C'est vraiment très important de travailler avec les usagers. Et ensuite, c'est de travailler justement en fonction des contextes, soit avec des ONG, soit avec des entreprises qui vont être capables de passer à l'échelle en faisant de la production, de la diffusion, etc. Et on essaie à chaque fois de poser les bases, on va dire, éthiques pour que cette production-là soit faite de la manière la plus pertinente. Si possible, par exemple, en faisant de la réinsertion sociale, ou en faisant du réemploi de matériaux, ou en utilisant des matériaux issus de ressources locales, etc.
Autre exemple de création du lab, là vous le faites aussi avec une entreprise du Finistère, c'est la Tiny House Low-Tech.
Ouais, alors ça c'est le projet que je porte en ce moment avec Clément. En fait, on s'intéresse beaucoup au low-tech en contexte de pays émergents. Puis à un moment donné, on s'est dit, est-ce qu'il n'y a pas des low-tech aussi adaptés à notre contexte chez nous en France ?
Exactement.
Donc en fait, entre 2017 et 2018, on a été rencontrer une douzaine d'inventeurs de low-tech un petit peu partout en France. Par exemple, pour fabriquer un chauffe-air solaire, un chauffage qui va permettre de chauffer sa maison grâce au soleil en hiver, qui est très efficace, ou encore un petit poêle de masse pour chauffer sa maison grâce à la ressource du bois. Et en fait, à un moment donné, on a voulu se dire, est-ce qu'on pourrait pas tester tous ces systèmes-là dans une petite maison prototype low-tech ? Alors nous, on a pris une coquille de tiny house, qui sont des petites maisons en façon bois sur roulette, dans laquelle on a mis toutes ces low-tech pour voir à quel point on peut tendre vers l'autonomie, mais avec un impact écologique hyper intéressant, voir à quel point c'est aussi rentable d'un point de vue financier pour l'utilisateur. mais aussi voir à quel point on gagne en confort de vie grâce au low-tech.
Ce que vous nous racontez est assez exceptionnel, surtout que le low-tech lab l'est tout autant. Il est basé à Concarneau, mais tous les membres viennent de toute la France. L'intérêt est national et l'intérêt est aussi mondial, comme on l'a bien compris, mais ça implique des moyens financiers. Est-ce que l'écopole de Concarneau participe au développement du laboratoire?
Alors, l'écopole de Concarneau ne participe pas directement au développement du laboratoire. Par contre, on a été partenaire, notamment dans le cadre de l'exposition du low-tech tour, en fait, justement la phase dont je vous parlais tout à l'heure, là, de repérage des low-tech en contexte français.
Oui.
Et ben, en fait, on a fait une exposition qui a été mise à l'écopole il n'y a pas très longtemps, qui a permis à des gens localement de venir découvrir ce qu'étaient les low-tech. Il y a une petite sauce qui est en train de prendre en ce moment, justement, et qui permet de créer tout un réseau d'acteurs de low-tech en France et même, en fait, un petit peu partout dans le monde. Et ça, c'est super positif pour la suite.
Bravo. C'est la première fois que je vais louer l'évêque. Elle n'est pas bonne, celle-là, mais alors, franchement.
Vous ne l'avez jamais faite.
Ben oui, bien sûr. Pierre-Alain Lévesque, membre du Low-Tech Lab, basé à Concarneau, lowtechlab.org pour l'adresse. Et il y a également une page Facebook. Pierre-Alain, merci.
Ben, merci beaucoup à vous.
France Inter, carnet de campagne.
Plusieurs courriers nous ont guidés vers l'association multiservice au profit des jardins et composts partagés en Bretagne, Vert le Jardin, c'est son nom, vert comme la couleur. Fondée en 2000 par Michel Campion, qui n'a rien à voir a priori avec le roi des forains, cette organisation fait, selon Gildas, un boulot exceptionnel et selon Géraldine, dans un autre courrier, elle fait pousser des jardins, une conserverie, une forêt, des invasions de nains de jardin et mille autres histoires à coucher dehors, fin de citation. De notre côté, je retiens que Vert le Jardin, qui a une antenne dans chaque département de Bretagne, nourrit un gros calendrier de journées, de stages, d'événements, le jardin ressources de Saint-Brieuc, plusieurs chantiers participatifs ou d'initiation en septembre. Et puis l'événement à venir est la fête du chant à l'Assiette, samedi prochain, 14 septembre, à l'éco-centre de la Taupinet à Brest, et au programme concerts, ateliers, marchés de producteurs, conférences et concours de pain. J'ai bien dit de pain. Viendront ensuite les jardins partagés en fête à la Nestère et à Lorient, et puis le samedi 21, la fête de l'automne aussi. À Lorient, samedi 21, pardon, et la fête de l'automne à Brest le dimanche 22. Il y a tellement de choses qu'au bout d'un moment, on s'y perd. Verslejardin.fr pour l'adresse. Denis Bodenec, bonjour.
Bonjour.
Denis, il faut être fort du mollet ou du dos pour pratiquer le vélo mobile ?
Non. D'ailleurs, pour le dos, c'est très reposant parce que, en fait, le dos n'est pas du tout contraint comme on est allongé dans la machine.
Oui.
Et après, les mollets, bon, au début, ça peut paraître un peu dur, mais bon, on s'y fait assez rapidement. Parce que c'est pas tout à fait les mêmes muscles qui travaillent que sur un vélo classique.
Oui. Alors, le vélo mobile, on en voit régulièrement, surtout l'été. Ce sont souvent des tricycles, voire quadricycles, couchés. Mais alors, vous, ce que vous prenez au Vélo Mobile Club de France, dont vous présidez les missions depuis 2015, ce sont des vélos mobiles carénés?
Oui. C'est une coque souvent en fibre, soit carbone, soit fibre de verre, et puis avec après des éléments de suspension et puis de la transmission rapportée dessus, quoi. Donc c'est autoporteur les coques en général.
Ouais. J'ai l'un de vos modèles sous les yeux, magnifique, hein. On dirait une voiture de course, c'est impressionnant.
Oui. C'est vrai que c'est prévu pour ne pas avoir beaucoup de résistance aérodynamique, donc... C'est pour ça que les formes sont assez douces et assez belles en général. Et les couleurs sont aussi en général assez voyantes pour que sous la route on nous voit bien.
Alors évidemment, c'est un moyen de locomotion complètement écologique qui est très très intéressant. Sauf que moi je vois ça, je dis c'est bien, mais on est allongé, donc on est bas sur la route. Ça peut aller très vite, avec un record c'est plus de 144 km/h, c'est pas rien. C'est dangereux.
Non, pas du tout. Au contraire, on est beaucoup plus respecté par les voitures que sur un vélo classique. Mmh. Alors, en général, on essaie de trouver des routes pas trop fréquentées.
Le vélo mobile, Denis, a été inventé par un Français, mais n'a jamais vraiment bien fonctionné en France, puisqu'aujourd'hui, le vélo mobile est surtout pratiqué dans les pays d'Europe du Nord, en Belgique, aux Pays-Bas, voire en Allemagne aussi. Pourquoi ça marche pas chez nous ?
Sans doute parce que les infrastructures cyclistes ne sont pas forcément très développées en France, quoi. Mais bon, un vélo mobile, ça peut très bien aller sur la route assez facilement, quoi.
Ouais. Et mais il y a un souci. Alors, vous dites, les voitures, effectivement, sont toujours représentent un danger pour les vélos, y compris les vélos mobiles. Mais les vélos mobiles peuvent devenir dangereux pour les vélos.
Non, non, c'est pas dangereux pour les vélos, hein, parce que nous, on est attentifs. J'ai roulé plusieurs fois en Hollande et en Allemagne, en Belgique. On n'a pas de problème avec les vélos.
Non, mais j'avoue, moi j'ai un coup de cœur, je trouve magnifique. Je répète, on dirait des voitures de course à l'ancienne, elles sont superbes.
Ah oui,
avec une charge utile, on peut emporter ses valises si on veut.
Ça dépend des modèles. Hein. Le modèle que vous trouvez très beau, là, en fait, il a quatre roues et puis il a un coffre qui est assez grand. Donc oui. On peut emporter pas mal de bagages. Oui. L'été, quand on fait notre randonnée, là, il y en a quelques-uns qui ont une remorque aussi carénée, quoi.
Et il existe un vélo mobile à assistance électrique?
Ah oui, bien sûr. Celui de mon épouse a une assistance électrique. Hein, comme ça lui permet de suivre assez facilement, on va dire.
Et en moyenne, vous roulez à quelle vitesse, vous, Denis?
On roule entre 25 et 30 km/h quand on est en randonnée, comme ça. Après, on peut aller plus vite. Hein. Ouais. Moi, j'ai un vélo mobile qui est plutôt sportif. Je peux faire du 40 de moyenne sur 70 km. Ouais. Après, ça dépend aussi du relief, quoi.
Est-ce que ces modèles sont fabriqués en France?
Non, la majorité sont fabriqués en Hollande, ou en Allemagne, ou en Tchéquie. Et en France, il y a un fabricant qui est en Vendée et qui a lancé deux modèles.
Quels sont les avantages pour les particuliers d'adhérer au Vélomobile Club de France?
Les avantages, c'est que déjà, on a un bulletin de liaison. On organise aussi une randonnée par an. Après, un rassemblement aussi en Vendée, donc c'est en septembre. Ça permet de regrouper les adhérents entre eux et de discuter plus facilement.
Alors, si vous voulez chercher une alternative à la voiture individuelle, vous avez le vélo mobile. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, le plus bas prix, c'est 4 000 €, le plus haut, 10 000. Il faut compter 7 000, 7 500 € moyenne pour avoir un vélo mobile, donc ce vélo caréné. Ce sont pour l'instant, les premiers modèles. Ça va se développer, je l'espère en tout cas. Et ça a vraiment une très très belle allure. Le site, si vous voulez suivre les activités et voir adhérer au Vélomobile Club de France, vélomobile-france.com, c'est tout simple. Et il y a une page Facebook aussi. Merci Denis.
Je vous en prie.